déjà une considération à faire et une grande influence pour les dépositions. La vigie a préparé un gros dossier. Pour pas être petit, celui déposé à la préfecture fait 1700 pages seulement. Donc il nous a fallu un peu de temps pour éplucher tout ça. Mais comme nous avons une expérience de 16 années déjà, nous avons cumulé pas mal de sujets. Et donc il nous a fallu travailler bien avant d'avoir ce dossier de 1700 pages en les mains. Nous n'avons pas perdu de temps. Nous nous sommes pris à l'avance pour pouvoir constituer la réplique et l'aide nécessaire à la compréhension d'un projet compliqué que les commissaires enquêteurs ont même, eux-mêmes auront du souci à éplucher complètement. Je vous rappelle que la vigie a deux objectifs. Le premier, c'est donc l'arrêt du projet un peu fou. Il y a 16 ans que nous nous battons. Mais aussi, nous avons derrière l'objectif de voir la zone dans laquelle on a voulu faire ce projet, qu'elle soit définitivement protégée. C'est pourquoi vous voyez cette belle photo à chaque fois dans nos réunions, site à protéger. Ce site est remarquable, et ce terme de site remarquable existe dans les classements pour protéger des zones particulières de notre territoire. Celle-ci en fait partie, et nous entendons qu'elle soit reconnue comme telle. Donc c'est pourquoi nous demandons demain, lorsque nous aurons arrêté ce projet fou, que cette zone soit pérennisée, protégée à jamais, avec cette définition d'espace remarquable, protégée par l'article 146.6, qui est un des plus protecteurs aujourd'hui dans ce domaine. Ce site de la Normandie est un espace remarquable, je le confirme, je le dis, je le répète chaque fois. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il possède toutes les caractéristiques qui définissent ce genre de lieu. Personne ne peut le contester, il suffit d'en voir la liste. Là, je ne vais pas vous la faire aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous apporter pour l'enquête publique les raisons majeures, les objections majeures. Car à chaque objection majeure importante, qui définit ce que demain les décideurs devront prendre en compte pour prendre vraiment leurs décisions, il y a à l'intérieur de chacune de ces objections majeures des foultitudes de petites. Les foultitudes de petites, si vous les mettez en avant, elles occultent la principale. Nous allons essayer, avec le document et les dossiers que nous avons préparés, vous permettre, lorsque vous pourrez les consulter, de comprendre le mécanisme de ce qui est important et ce qui l'est moins. Et ce qui l'est moins, c'est souvent quelque chose qui dépend de quelque chose qui est important. Donc il ne faut pas faire l'inverse, il faut partir sur ce qui est important et non pas sur le petit. Alors, ce n'est pas une raison pour dire qu'il ne faut pas parler des petites objections, mais il faut les passer sous le titre de ce qui est important. Nous allons essayer ensemble de vous apporter des réponses sur ces questions. Donc, à l'enquête publique, je vous rappelle que chacun peut y déposer de nombreuses objections contestables, démontrées par nos études et analyses. Le projet est soumis à la procédure des services de l'État et un rappel important, dans la confusion souvent, n'oubliez jamais que c'est l'État seul qui décide. Ce que diront les commissaires enquêteurs, l'État n'est pas obligé de les suivre. Si c'est un avis négatif, un avis positif, l'État il fera sa décision. Même de l'un ou de l'autre, c'est possible dans tous les cas. Donc, l'enquête publique est le dernier maillon de la procédure avant cette décision d'État. Ce que vous voyez sur l'image, c'est quelque chose que nous avons réclamé à grands cris, des véritables images 3D dans le projet, qui nous permettraient de voir la nocivité, la dégradation du paysage lorsqu'on est plagiste, ou estivant qu'on vient à la plage, on s'assoit, on s'allonge, et on voit, on regarde l'horizon, on voit la mer. Et là, ça, on n'a pas voulu nous donner ces images en réalité en 3D. Pour bien comprendre, nous avons essayé modestement de faire ce que vous voyez là. Ça peut donner une petite idée, et tout n'est pas parfait, bien sûr, mais ça peut vous donner une image de ce que vous auriez si vous allez vous asseoir sur la plage. Pour ceux qui peuvent bien voir, vous voyez ici, c'est la dimension d'un homme. Donc, vous voyez les espaces, Eh bien, c'est à imaginer, cette image le permet. Alors, comment se dit qu'elle est... Bon. Donc, par nos dépositions à l'enquête publique, nos objections auprès de l'État, nous allons démontrer que le projet n'est pas d'utilité publique. C'est un point essentiel, donc majeur. Et en aucun cas d'utilité publique majeure, puisqu'il y a deux étages à la limite, et que les intérêts prétendus du projet sont largement inférieurs aux nuisances irréversibles sur le milieu. Donc c'est la balance entre avantage et non-avantage qui est ici dans un parfait déséquilibre et que nous allons essayer de mettre en exergue et bien démontrer à chaque fois avec des arguments. Ces arguments seront étayés, appuyés, et nous ne manquerons pas de passer en revue toutes les couches. Donc, ce projet, c'est une nouvelle enquête qui est devant nous, pas un nouveau projet. Rappelons que ce projet a été déjà examiné en enquête publique en 2011, avec des sanctions que vous avez connues, avis défavorable sur toute la ligne. Les modifications du dossier de 2018 avec un pont levant et un décalage des bassins, le portage du projet par la CDC, ne sont pas des choses qui gomment les objections majeures qui ont été relevées déjà en 2011. Donc, et ne suppriment en aucun cas ces dispositions, les objections majeures. Donc il n'y a pas un nouveau projet, il y a une nouvelle enquête. Rien n'a changé, la preuve. D'abord, nous allons commencer par la visite d'état du lieu. L'emprise terrestre, qui comporte une zone humide, carrière réserve d'eau, domaine classé, un secteur agricole bio, ensemble écologique de biodiversité et une coupure d'urbanisme et de co-visibilité. Là-dessus, aucun cabinet d'études ne devrait le contester. Nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est pas possible, on peut constater. C'est un constat absolument incontestable. L'emprise maritime, pour son côté, là, nous allons trouver des inconvénients importants avec des plages barrées condamnées par le chenal, la promenade du bord de mer rompue, les dunes bordières éventrées, et ça, c'est non compensable, nous en parlerons. Il y a deux prises lattes massives, 250-350 mètres. Ah, tiens, une petite anecdote, il paraît qu'on m'a reproché de dire que c'était plus que ce qui était indiqué dans le document. Le document est à 5 mètres près de tout ça. Donc, un jour, quand on nous aura posé des pierres de plusieurs tonnes les unes à côté des autres, il faudra aller voir et mesurer si c'est bien respecté au mètre près. Ça m'étonnerait. Enfin, bon, passons. Donc, ces prises-là sont de véritables défigurations du paysage visuel des plages vers la mer. Et, bien entendu, génère un défaut majeur, c'est le transit sédimentaire qui immanquablement sera impacté. Là aussi, je ne vois pas comment un cabinet contesterait cela. Ce n'est pas contestable. Ce que vous voyez là, ça relève du domaine du vrai et on ne peut pas le contourner. C'est donc pour nous, nous l'avons déjà dit, on nous le reproche d'ailleurs de passer cette expression, un port du passé. Pourquoi ? Parce que sur le plan économique, aujourd'hui, lorsqu'on veut en faire un développement et des rapports pour les collectivités, il y a beaucoup de choses et de leviers sur lesquels on peut se servir. Mais cette méthode-là, aujourd'hui, faire un ouvrage qui n'est pas indispensable, qui n'est pas d'utilité publique, qui n'a pas l'intérêt général, ça va jusque-là, pour faire du business, pour faire marcher des entreprises. C'est vraiment un mode d'investissement qui est basé sur la garantie du public, c'est-à-dire les consommateurs et en même temps les contribuables que nous sommes. C'est un jeu un peu d'un autre temps. Il faut trouver des moyens nouveaux pour développer de l'économie. Et là, ici, nous nous retrouvons devant un investissement excessif et à haut risque, avec des garanties financières fournies par les contribuables, dont les retombées si on prend tous les chiffres, on ne pourra pas les garantir. Et on a, pour avancer cela, toujours la même musique, le chantage à l'emploi. On va créer des emplois. Alors aussi, sur ce projet, nous contestons les chiffres qui nous sont avancés, et dans notre document, le dossier que nous remettrons au commissaire, nous pourrons l'examiner de plus près et montrer que ce n'est pas tout à fait vrai. Le contexte d'un loisir trop onéreux en mutation, c'est un point essentiel pour dire que le besoin d'anneau qui nous est présenté dans le projet par le promoteur, là aussi, c'est rapidement démonté si on vraiment fait les analyses. Nous les avons faites et nous les fournirons. Le contexte de contradiction touristique entre l'attrait de l'existant naturel et la dépréciation par l'artificiel, chacun comprend que là aussi, il n'y a pas de possibilité de contester qu'il y a cette inversion qui n'est pas forcément du goût de tout le monde, en tout cas pas d'intérêt général. Depuis 2003, près de 7 millions d'euros dépensés par les collectivités, ça aussi, c'est assez étonnant que personne ne se soulève pour dire « mais arrêtez, ouais, donnez-moi cette somme ». Et puis ensemble, on se met à table, on décide de faire des choses pour la commune de Bretigny. À votre avis, est-ce que c'est pas un peu que je suis en train de rêver ? Les objections majeures, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un point capital, parce que c'est là où l'État, demain, devra se prononcer pour dire « on accepte, on fait ce projet, et allons-y, on rentre les bulldozers dans les terres, allons-y ». Eh bien, il s'agit d'une privatisation de l'espace public. Les plages, on a tous. On va morceler ces plages pour la revendre à des locataires de bateaux, de l'espace pour leurs bateaux. Donc, avec quels moyens les investissements que nous garantissons par nos impôts pour quelques personnes? Non, c'est pas juste. L'intrusion sur le domaine maritime, n'oubliez pas qu'il y a une ZPS, c'est-à-dire une zone protégée pour les oiseaux, et vous avez Natura 2000 jusqu'à l'île-Dieu, à partir du zéro côte marine, c'est-à-dire avant les enrochements. Ils sont prévus pour briser la houle. Ce qui veut dire qu'on a un impact, on rentre sur une zone interdite, tout simplement. La rupture du canton dunaire du Marais Girard est une chose absolument... C'est pas croyable. Comment peut-on faire ça? Puisqu'il n'y aura pas de barrière demain si vous avez une surcote comme celle de l'Escinta qui vous arrive. Regardez, je vous donne un exemple. À la Gachère, il y a une écluse. C'est aussi en même temps un barrage. Lorsque les portes sont fermées, on bloque l'océan. De chaque côté, il y a de la dune. Lorsque l'Escinta est arrivée, les portes étaient fermées, évidemment. Et Cynthia a réussi à démolir le côté gauche, quand on est face aux terres, pour enfin passer son eau. Il a passé lentement, parce qu'il a fallu dégrader une hauteur de 15 à 20 mètres de sable, et sur une trentaine de mètres de large pour passer. Donc le temps qu'elle fasse ça, elle n'a pas pu aller inonder la Gachère, parce que le barrage lui-même a fait son travail avec la dune qui était à côté, qui a résisté pendant un temps. Maintenant, je vous ouvre, j'enlève de l'estuaire cette fameuse porte qui est là, ce barrage, ces portes, on n'a plus rien. On a juste le courant, le lit, l'estuaire. Imaginez ce jour de Cynthia que ça aurait été ce genre de rivière qui débouche directement comme ça avec son estuaire. Personne ne peut imaginer ça. C'est facile. Là, on avait droit à une véritable catastrophe. Donc, quand on ouvrira, si demain on fait ce projet, la dune du Marais Girard sur une largeur de 30 mètres au fond et plusieurs jusqu'au niveau du haut, on est à 100 mètres, vous imaginez une surcote, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de porte. On fonce. Même si vous avez une hauteur de mur au fond des bassins, comme on nous prétend qu'ils protégeraient, eh bien, moi, je vous dis, bonjour la casse, c'est tout vu d'avance, on a une catastrophe, c'est sûr. Donc, la rupture du canton dunaire du Marais Girard, c'est quelque chose qu'il faut défendre absolument comme quelque chose de pas normal, d'envisager un truc comme ça. le barrage de l'Estran, la rupture du passage côtier avec le chenal, ça aussi, c'est quand même... Demain, vous êtes du côté de du marais Girard, vous voulez faire un petit tour aux dunes, faites le tour. Allez, circulez. Faites le tour. Je ne sais pas si vous apprécierez ou si vous irez, vous abandonnerez et vous trouverez le lieu bien moins intéressant qu'il ne l'est aujourd'hui. Voici à quoi ressemble, pour imaginer, cette rupture de passage. Ça dit tout. Alors, dans les objections majeures, côté terre, la dénaturation d'un espace remarquable, je vous ai parlé de l'espace remarquable tout à l'heure, donc un site sur lequel nous avons toutes les caractéristiques pour le classer de la sorte, mais les classements de la sorte ne peuvent venir que par ceux qui gèrent le territoire. Nous, l'association, nous avons bon le dire, le redire, ça la passe par des demandes qui sont faites officiellement par les gestionnaires du territoire. Donc, en ce qui nous concerne, on est les moins d'aboutir à ce genre de prise de décision. Donc, encore une fois, voilà une objection que nous estimons être majeure. La suppression de la coupure d'urbanisation qui a été actée dans le poste de 98, on en a souvent parlé, c'est un sujet qui fait dresser l'adversaire que nous avons droit dans ses bottes pour dire non, il n'y en a jamais eu, il l'a affirmé à plusieurs reprises. Nous, c'est pas très compliqué, c'est quand même dans les documents du poste de 98, il y a des photos, il y a des croquis, il y a des textes. Et sur cette question-là, comme le poste n'a pas été fait avant la loi littorale, c'est venu après la loi littorale. Donc, quelque part, ça fait partie des choses qui sont contenues dans le règlement de la loi littorale. Alors, si aujourd'hui on la supprime, c'est une véritable machine arrière en recul devant, au contraire, ce que l'on demande de progresser pour protéger la nature et l'environnement. Donc là, ici, on a chose, tu peux aller à l'envers, quoi, c'est à l'envers. Donc ça, c'est contestable, c'est aussi une objection majeure, parce que la préparation du projet de port passe par la préparation des documents d'urbanisme, qui sont le POS, qui a été supprimé, donc nous ne l'avons plus, mais le PLU, qui devrait être fait et qui n'est pas fait, et puis il y a aussi la marche au-dessus, qui est le SCOT. Donc c'est lui, déjà, qui supprime cette coupure d'urbanisation. Ce qui veut dire qu'elle désobéit aux règles de la loi littorale, parce que la loi littorale est supérieure encore au SCOT. Donc, de fait, si vous voulez, nous sommes dans une espèce d'imbroglio où qui a raison, qui a tort, et il faudra peut-être le juge pour cela. Nous avons entrepris d'aller le voir, d'ailleurs, puisque nous avons contesté le SCOT sur ce sujet, et que nous avons déposé une requête avec le cabinet qui nous suit dans nos affaires juridiques, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, la rupture du compte. Alors, je sais où, là. Bon, il y a aussi cette fameuse histoire de la zone humide. Voilà encore une objection majeure. Depuis le début de ce projet, nous avons, à la vigie, toujours essayé de bien faire comprendre que ce n'était pas possible de faire un trou dans les terres à un endroit pareil, car automatiquement, on détruisait une zone humide. Or, les zones humides sont sacrées aujourd'hui, elles sont mises dans une catégorie de haute protection partout, et on a compris que l'écosystème était ainsi un équilibre de nos vies et de nos lieux de vie, donc par conséquent absolument à protéger. Et donc la zone humide, ici à Boitignolles, peut-être qu'elle est petite, elle fait 15 hectares, ce n'est pas quelque chose qui va dans des protections comme, les grandes surfaces qui sont protégées par le Ramsar. Hein? Bon, en attendant, ce n'est peut-être pas sous la dimension des codes Ramsar, mais c'est essentiel pour nous. Il n'y a pas de petite protection à faire, il y a que des protections utiles. Bon, celle-ci, elle l'est, parce qu'elle se situe justement sur la coupure d'urbanisation. Elle fait partie d'un espace agricole bio, et elle est donc quelque part en relation directe avec la partie maritime. On nous dit que non, il y a une urbanisation ou d'artificialisation entre les deux. Il n'y a que le petit plan d'eau. Le petit plan d'eau, c'est un... Ça ne fait pas une barrière au sens de l'urbanisme. c'est un objet d'instruction pour le loisir, dans la base de loisirs qui existe. Donc, quelque part, les deux zones maritimes et la zone terrestre sont reliées à cet endroit-là d'une façon très précise. Donc, la zone humide, on nous dit aujourd'hui qu'on a dépassé le bassin et qu'elle donc elle est épargnée. Faux. Nous le prouverons, nous apporterons les éléments nécessaires au commissaire, enquêteur, et s'il le faut, demain, ben nous aurons à découdre grand devant le juge. Voilà. Donc c'est aussi, en quelque sorte, une objection majeure qu'il ne faut pas rater. Et derrière ça, nous avons la suppression de la carrière du Brotomé. Cette carrière, elle fait l'objet aussi de débats. On se contredit, et là, nous avons toujours affirmé que c'était une réserve d'eau potentielle. Aujourd'hui encore, cette année, monsieur le préfet a encore pris des dispositions de restriction d'eau. Eh bien, ça veut dire qu'on a vu des émissions il n'y a pas très longtemps sur le sujet concernant la Vendée, qui ne dispose pas de réserve d'eau souterraine, donc en quantité suffisante, en tout cas pour sa population. Maintenant, le conseil général... Le conseil de Vendée, le conseil départemental, a mis en place des recherches pour utiliser des carrières existantes pour faire des réserves. Et ce projet est en application. Bon, nous avons 340 000 mètres cubes. On dirait, bon, à côté du million qui est prévu dans les carrières qui ont été choisies, ça fait un beaucoup moins. Mais cela représente quand même une possibilité pour... 50 000 personnes pendant 50 jours. Donc, et encore, il faut que j'ajoute que donc, cette carrière du Brotomé est une caractéristique précise et particulière qui nous est contestée, même dans le document nouveau donc de 2018, les cabinets d'études prétendent encore qu'il s'agit de l'eau de pluie qui l'alimente. Alors, comme vous le savez, j'ai intervenu dans cette salle avec les personnes, les ingénieurs de BRM ici, qui est en train de nous expliquer ça en son temps, et j'avais pris le micro pour leur dire « Attendez, mais ça va pas. Vous avez joué ça, c'est une surface d'eau de niveau constant et des comme hiver. Et monsieur Bresson, Gilles Bresson, hydrogéologue, vous pourrez lui poser la question. Il vous montrera les statistiques d'études d'évaporation de l'eau. L'eau de pluie en Vendée s'évapore, elle ne peut pas. C'est l'évaporation est égale à ce qui tombe. Donc, quelque part, ça ne tient pas, cette histoire de pluie sur la carrière du Brotomé. Cette eau, elle vient par pression, par les réseaux souterrains. Donc, nous avons la chance d'avoir quelque chose qui se renouvelle. Quand on parle d'énergie renouvelable, là aussi, on a un bien renouvelable. Donc, quelque part, c'est quand même idiot d'aller fermer ce puits naturel, c'est un véritable puits naturel, et qui est autour sur une zone que nous demandons qu'elle soit protégée, donc qui serait parfaitement en normal qu'on l'utilise et qu'on fasse de cela quelque chose. Donc c'est aussi une objection majeure, comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait quand même beaucoup. L'objection majeure de 1, là, dont je viens de parler, l'hydrogéologue fragilise. L'hydrogéologie fragile classée, il faut savoir que, bien en plus de l'hydrogéologie, vous avez la géologie pure qui classe le secteur de l'empreinte du projet pour une protection. Nous avons demandé à. Alors attendez, je perds un petit peu le terme qui convient. Enfin. Bon, c'est une zone de géologique reconnue qui est cartographiée pour être protégée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur ces zones-là. Et nous sommes dans un périmètre qui est justement du SCAP, qu'on appelle ça. Et là, on a inscrit un programme sur une zone pareille, ce qui n'est pas normal. En plus, vous avez la ZPS Oiseau pour les roches du repos, vous avez Nature à 2000 en mer, vous avez la coupure d'urbanisation dans les terres, vous avez en plus, depuis 2016, une cartographie de protection définie sur cette zone de coupure d'urbanisation en SNIF 2. Ça fait pas mal, hein. Bon. Donc les objections majeures, elles sont nombreuses, et elles sont surtout très fortes. Alors, tout à l'heure, j'ai insisté là-dessus, je reviens, parce que ça, c'est le deuxième objectif de la vigie après la suppression du projet de port, cette fameuse protection de toute la zone, qui est ce que j'appelle un espace remarquable, qui en a toutes les caractéristiques. Cette petite photo que vous voyez, montage que vous voyez là, illustre parfaitement cette configuration de toutes sortes de choses qui sont précieuses à respecter, à protéger et surtout ne pas toucher, ou en tout cas toucher juste ce qu'il faut pour la pérenniser. La coupure d'urbanisation, la voici. Vous l'avez déjà vu dans nos séances de présentation et là en conséquence je vous la remonte cette fameuse photo parce qu'elle illustre parfaitement la situation. Regardez cette belle zone verte qui se situe entre le bourg et la partie Brême. Donc ça existe très peu sur le littoral, à part les grandes dunes qui sont protégées dans les espaces naturels appelés Natura 2000. Ici, c'est d'accord, c'est pas Natura 2000, c'est pas si grand. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devrait toucher à ça? Alors que partout ailleurs, maintenant, on nous dit... Pas toucher au littoral, protéger le littoral, faites attention au littoral. Oui, eh bien, on a tous les outils pour faire ces protections. Et non pas, j'allais dire des choses pas bien, mais bon, je me tais, pourquoi des décideurs veulent saccager ça? Bon, voilà. Ensuite, cette fameuse zone humide. Ce n'est pas une zone humide, ça? Ah bon? Alors, deux mots là-dessus. Si on déplace le bassin un peu plus au sud pour éviter ça, on entre dans les roches dures de la zone, la géologie du terrain n'est plus la même. Car la zone humide, ce qu'a démontré les recherches archéologiques préventives, c'est que nous sommes sur un ancien lit, ils appellent ça une paléo-vallée, c'est-à-dire qu'autrefois il y avait un grand trou et l'eau circulait jusqu'à la mer. La mer était beaucoup plus loin. Et puis les temps ont passé, la mer est revenue, elle a repoussé ses sédiments vers le lit de la rivière, il a refermé. Pendant ce temps-là, les alluvions qui arrivaient de l'autre côté, ne pouvant s'échapper, ont rencontré les eaux et la vallée s'est refermée. Mais sur le côté, donc la partie sud sur laquelle on va aller placer les bassins, vous avez une zone de roche particulièrement hétéroclite, c'est vrai. Il y a plusieurs... les substrats sont de différentes natures, avec des microgranites, des schistes, mais aussi de la rhyolite. C'est pas la simple petite roche, hein, celle-là. On peut pas la fendre, il faut l'explosif. Et pourquoi? Parce que la carrière est juste au-dessus. Si on a fait une exploitation de carrière, c'est pas par hasard. Et nous sommes sur de la roche. Et ces roches sont en contact directement avec toute la zone donc, qui va jusqu'à la Grande Roche. Donc par conséquent, si on va déplacer les bassins, d'abord ça va coûter beaucoup plus, parce que pour le travail de fond sur 15 mètres de profondeur, on augmente d'abord la capacité, le volume à extraire, et bien volume plus difficile à extraire, plus cher à faire. Ça, on n'en parle pas dans le dossier, et on essaie d'atténuer ça, ce qui nous aide, parce qu'on a trouvé que c'était un peu léger. Et donc la zone humide, on creuse à côté, mais la zone humide, elle s'en va dedans, elle ne peut pas. On nous a promis des étanchéités des bords et des fonds. Bon, alors sur 10 hectares, profondeur 12-14 mètres, moi, la zone humide qui est affleurante, c'est-à-dire que la couche stagnante d'eau imprégnée dans le sol, elle est entre 2 mètres 53 mètres jusqu'à 7-8 mètres. Et on creuse à 15. Vous voyez le genre? Comment allons-nous pouvoir dire que l'on va garantir que la zone humide va tenir face à ça? C'est vraiment... Bon, les hydrogéologues nous ont déjà un petit peu laissé entendre que c'est un peu cavalier de dire qu'on va pouvoir sauver la zone humide. Donc l'objection de zone humide depuis le départ de 2003 sur cette affaire est toujours la même. Ça aussi, c'est donc une objection majeure, malgré tous les efforts de BRL et donc de la société du bureau d'études et sa rédaction dans le document qui est remis pour le projet, eh bien, ils se sont évertués sur des phrases et des textes et des... à répéter qu'ils avaient sauvé la zone. Alors évidemment, quand on est en défense sur un texte comme celui-ci, aussi fouillé par des spécialistes, ça veut dire qu'on s'accuse soi-même parce qu'on a un problème. On essaye de s'en défendre, mais moi je vous le dis, ça ne tient pas. Un hydrogéologue suffirait, si vraiment il fait son étude, à vous dire, bah non, non, ça n'a pas marché. Voilà, donc nous insistons, voici la carrière. Cette photo, merci au Tour de France. Mais c'est quand même magnifique, non? Ça vous voyez? Alors, la zone humide, puisqu'on en parlait à l'instant, elle est sous cette eau que vous voyez là. Cette eau, elle est sur une butte par rapport au terrain naturel du marais en bas. Il y a une différence d'altitude, et ce qui veut dire que la zone humide et tout le système hydrologique d'en bas est tenu par des pressions comme celle-ci. Alors imaginez que l'on touche à l'âme, et puis ben, l'autre il meurt, et puis voilà, c'est la chaîne sans fin. Et ça, on ne veut pas, on ne veut pas. On fait des affirmations de défense, avec des arguments dithyrambiques dans les lectures des dossiers et des documents qui sont fournis par le cabinet. Mais si vous vous prenez la peine de lire tout ça, et puis vous dites, ben, après que vous avez quelques connaissances en la matière, vous imaginez bien que de toute façon, nous sommes devant un avocat qui défend son client, même s'il est criminel. Alors, vous en doutez, avec tout ce que je viens de vous dire sur les objections majeures, c'est forcément un dossier très très lourd juridiquement, car à l'intérieur, il y a des failles qui correspondent à des défauts de nos lois dans ce pays, et des codes qui régissent ces lois, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, et la loi littorale, évidemment, et la loi sur l'eau. Vous avez là de quoi vous amuser avec les avocats. Nous, on ne s'amuse pas, ça nous coûte très cher, mais je peux vous dire qu'on va faire l'effort financier pour que nous sachions ce qu'est la vérité dans ce domaine. Et là, nous n'avons pas choisi un petit cabinet, vous le savez, et si vous avez vu la dépense dans le budget tout à l'heure de 2017, c'est que nous avons préparé cette affaire juridique, car demain, c'est possible que nous en ayons absolument besoin. Donc, ce travail, il a été confié au bureau, au droit, au conseil de les compétences du bureau, de Guillaume Lepage. Donc nous avons, dans le petit feuillet que vous avez vu dans les boîtes aux lettres, nous avons fait un effort aussi, là aussi de financer, de communication sur ces sujets essentiels, des objections majeures, que vous avez pu repérer dans ce cahier. Bien sûr, il n'est pas exhaustif. On ne peut pas tout dire en 16 petites pages avec plus de photos que de textes. Répondre à 1700 pages, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, ainsi donc, Jean-Yves. Où il est, mon bon Jean-Yves? De cela, Jean-Yves va vous expliquer comment et pourquoi nous avons construit un dossier qui sera aussi complexe que le leur. Car on ne peut pas répondre en quelques phrases et quelques photos à un dossier aussi défendeur d'écriture de spécialistes d'un bureau d'études sans que nous fassions nous-mêmes la critique complète et détaillée de tout ça. Il va vous expliquer comment nous avons construit notre dossier, que nous verrons plus tard. Nous pourrons le mettre à votre disposition sur une plateforme. Jean-Yves, bah écoute, dis-nous tout.
Merci Jean-Baptiste. Jean-Yves Bonsoro, je suis donc administrateur de la Vigie et rédacteur du blog Normandelière. Si j'ai accepté de